Si au cours des siècles, les chrétiens de différentes confessions se sont combattus au point parfois de s'entretuer, Dieu merci, les temps ont bien changé. Plus que de dialogue, c'est aujourd'hui de fraternité qu'on peut parler. Il faut dire que des hommes et des femmes de bonne volonté se sont levés et se sont impliqués dans ce qu'on a appelé et qu'on appelle toujours le mouvement œcuménique. Les différences restent, mais ce qui nous lie est plus fort. Bonjour Anne-Laure Danet.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et vous êtes responsable du service des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Alors quand on parle d'église chrétienne, ça englobe d'autres églises que les catholiques et protestantes. On parle aussi des églises orthodoxes, des églises arméniennes, enfin de toutes les églises chrétiennes présentes sur le territoire français. Je pense qu'on va peut-être se contenter de notre réalité française, ça sera plus simple. J'aimerais commencer par savoir comment le mot œcuménisme résonne à votre oreille. Comment vous le définissez ?
Alors, il a évolué aussi dans le temps. C'est un mot qui veut dire la terre habitée, et donc qui concerne au départ toutes les missions, c'est-à-dire comment on annonce l'évangile à la terre entière. Et cette terre habitée, d'abord on n'en a qu'une, et qui nous indique déjà qu'on est dans une fraternité, parce qu'on est tous de la même... Dans cette humanité, nous sommes tous semblables, nous avons tous ces liens d'interdépendance. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant d'ailleurs, avec cette question de la crise climatique, on le sent bien, et de crise climatique, mais aussi économique, sociale, etc., où ce qui se passe à un endroit concerne les autres. Et du coup, cette interdépendance, elle est aussi significative entre les églises. Aujourd'hui, on n'est pas une église toute seule, ça ne veut rien dire. Ça l'était déjà à l'origine, évidemment, hein, puisque l'Église, c'est d'abord l'Église de Dieu. Et puis, c'est, vous savez, dans la Bible, on prend cette image du corps du Christ. Et ce corps, eh bien, il est unique, il n'y en a qu'un. Alors, il y a des formes différentes, c'est-à-dire on n'est pas tous de la même manière, mais on appartient tous à ce même corps.
Cette conscience d'appartenir tous à un même corps, il a fallu quand même y travailler, parce que je le rappelais au début de cet entretien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, aujourd'hui, on est en mesure de se voir comme frères, et c'est l'objet de notre entretien, de voir dans les différences de l'autre une richesse ?
Eh bien, c'est d'abord et avant tout l'Évangile. Lire l'Évangile, recevoir cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous rappelle que nous sommes frères et sœurs en Christ. Et frères et sœurs en humanité, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité les uns à l'égard des autres, mais sur un mode qui est formidable. Se découvrir frères et sœurs en Christ, c'est avoir découvert que Christ a fait de chacun d'entre nous son frère ou sa sœur, c'est-à-dire nous a fait enfants de Dieu. Et ça, par la seule volonté de Dieu, et sa volonté, c'est son amour. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de découvrir que le mouvement œcuménique, il a démarré avec cette démarche de dire « on veut annoncer l'Évangile au monde entier ». Et c'est sur les terres de mission, au démarrage, c'était à la fin du XIXe siècle, les anglicans et les luthéraux réformés, les églises luthériennes et réformées, et les églises anglicanes, se sont retrouvés sur les mêmes terres de mission. Et évidemment, ils avançaient chacun pour leur propre église. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que ceux à qui ils parlaient ne recevaient pas leur message, parce qu'ils disaient...
Ils ne comprenaient pas.
Nous sommes en concurrence, du coup, on n'est pas crédible, et on annonce l'amour de Dieu, mais nous, on ne le vit pas entre nous. Donc, ils ont arrêté de faire ça. Et c'est de là qu'est né le mouvement œcuménique, et qui s'est élargi progressivement. Les orthodoxes se sont mis tout de suite dans le mouvement... Et puis il a fallu attendre Vatican II, mais c'était une démarche qui était une ouverture extraordinaire quand l'Église catholique romaine a dit on rejoint ce mouvement. Et ça s'est traduit de différentes manières, mais ça voulait dire entre ces églises, alors là on est au niveau mondial, pour se traduire ensuite localement sur le terrain, ça voulait dire des vraies collaborations, et c'est comme ça qu'on a commencé à se regarder autrement que comme des concurrents ou des étrangers. On a appris à se connaître.
Thank you. Anne-Laure Danet, c'est donc au XXe siècle vraiment que le mouvement œcuménique a pris corps, qu'il s'est organisé, qu'il a suscité une adhésion de la part des différentes églises et que des hommes et des femmes se sont véritablement mis au travail aussi pour réfléchir ensemble à ce que ça voulait dire que d'être chrétien en tenant compte des différences. Ça a été une véritable aventure.
Alors, le « en tenant compte des différences », c'est pas venu tout de suite, hein. Ça aurait été trop bien. C'est-à-dire, quand le mouvement œcuménique a démarré, l'idée, c'était d'abord ce recentrage sur la Bible. Et ça, c'est formidable, parce que c'est notre bien commun. Et le texte qui a été choisi, c'est celui de Jean 17, c'est cette prière de Jésus à la veille de sa mort, quand il prie pour que tous soient un, comme dit-il, le Père et moi, nous sommes un. Et cette unité, dans le mouvement œcuménique, les églises ont compris qu'elles n'avaient pas à la faire, qu'elle nous était donnée par Christ. Et ça, c'est un changement aussi considérable, parce que c'est une manière de dire, alors c'est quoi notre travail? Eh bien, c'est de rendre visible cette unité, pas à la créer. Christ est au centre. Donc, plus on se rapproche du centre, plus on se rapproche de lui, plus on se rapproche les uns des autres. Et c'est en se rapprochant de lui qu'on comprend que nos différences deviennent des richesses. Mais au début, évidemment, nos différences, elles ont été vues plutôt comme des éléments séparateurs.
Comme des obstacles.
Des obstacles, parce qu'on ne se comprenait pas. D'abord, on ne se connaissait pas assez. Et puis, vous savez très bien aussi, si on veut rester dans le contexte français, que l'Église réformée, que les réformés et les luthériens se sont plutôt construits à cause de la révocation de l'édit de Nantes, qui a été ensuite une succession de persécutions des protestants. Ces protestants se sont construits au démarrage plutôt contre l'Église catholique.
On n'efface pas l'histoire.
Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans le mouvement œcuménique, et ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de dire, nous ne pouvons pas changer les faits historiques, mais la manière dont nous le racontons, ça, on peut le changer. C'est une approche qui fait partie de ce qu'on a appelé les renouvellements des dialogues œcuméniques et qui s'appelle la guérison des mémoires. C'est très exigeant parce que le principe, c'est de dire chacun raconte son récit. Alors par exemple, les réformés, ils ont raconté leur histoire protestante française, évidemment avec leur propre regard. Les catholiques ont fait la même chose. Et ensuite, l'objectif, c'est à force de discuter, d'aboutir à un récit commun. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. J'ai appris en allant faire une conférence qu'il y a eu des massacres de catholiques par des protestants et l'inverse pendant la révocation de l'édit de Nantes à Orléans. Eh bien, l'évêque et le pasteur de l'Église protestante unie ont décidé de faire ce travail. Ils l'ont fait. Et ça a changé complètement les relations. Et il y a une véritable amitié qui s'est créée et du coup des collaborations formidables.
Anne-Laure Danet, est-ce que tout ce que vous venez de raconter met les différences de côté ou les inclut, les assume?
Alors, il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'était de dire, on fait un travail pour apprendre à se connaître, donc le plus facile, on cherche les dénominateurs communs. Donc, on a trouvé ce qui nous rassemblait, c'est allé assez vite. Et ensuite, on a dit, on travaille sur nos différences, donc on les connaît parfaitement, nos différences. Mais on a dit, ça ne suffit pas, parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces différences? Alors, il y a eu une démarche qui a consisté à dire, et qui est très fructueuse, qui a consisté à dire, je mets en suspens mes convictions, et puis j'essaye de comprendre quelles sont les convictions de l'autre, et de repérer ce qui manque à ma propre tradition. Et ce qui manque, que l'autre a forcément, est-ce que ça peut devenir une richesse pour ma tradition? Mais évidemment, ce n'est pas un copier-coller. C'est une adaptation à sa propre tradition. Et l'autre approche qui est aussi tout à fait formidable, c'est une méthode qu'on a appelée celle du consensus différencié, alors qui est une approche beaucoup plus dogmatique, doctrinale, et qui est très intéressante parce que là, ce n'est pas simplement relationnel, c'est déjà essentiel ça, hein, parce que ça permet de voir l'autre autrement. Je ne le vois pas comme un concurrent, je ne le vois pas comme un ennemi, ni même comme un étranger, mais je le vois comme quelqu'un qui peut m'enrichir. Donc c'est énorme. Mais l'autre, on a été encore plus loin. Cette méthode du consensus différencié, elle consiste à dire, voilà, on établit une base commune, mais qui est
complètement fiable et qui est importante sur des éléments essentiels de la foi.
Les fondamentaux.
Des fondamentaux. Et à l'intérieur de cette base, bien sûr qu'il y a des différences, et nous les gardons, et même nous les valorisons, parce qu'il ne s'agit pas de lisser nos identités, à condition que ces différences ne soient pas séparatrices. Et ça, ce qui a été génial, c'est que ça s'est fait entre l'Église catholique romaine au niveau mondial, donc là c'est le Vatican, et puis la Fédération luthérienne mondiale, sur le point de rupture qu'il y a eu à la réforme, c'est-à-dire la compréhension du salut par la grâce. Et donc ce point de rupture, eh bien, il n'existe plus, parce qu'ensemble nous pouvons dire que nous proclamons le même salut. Et ce qui est formidable, c'est que les réformés au niveau mondial ont signé ce même accord, et les anglicans ont signé ce même accord, ainsi que l'Église méthodiste. Ça fait du monde hein, qui s'est retrouvé. Donc ce qui paraissait des impasses, voire des ruptures non négociables, deviennent des lieux où on se retrouve complètement, sans être complètement identique.
Alors Danée, quand des chrétiens repèrent dans la tradition, dans l'histoire, d'autres églises chrétiennes, des choses qui leur manquent, c'est ce que vous disiez dans notre précédent entretien, et se disent, ça peut être une richesse pour nous ça, parce que bah, nous on l'a pas ça, on l'a plus, ou eux ils ont pensé à ça, nous on n'y avait jamais pensé. Est-ce que ça signifie qu'il faut se laisser convertir par l'autre ? Est-ce que c'est finalement aussi un petit coup de canif dans ce à quoi on croit, mais bon, on fait des concessions, quoi.
Oui, c'est le terme que vous avez utilisé est complètement juste, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est une vraie conversion. Mais ce n'est pas une conversion à l'autre, c'est une conversion à l'Évangile, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire on est ensemble dans une recherche de vérité et de fidélité à l'Évangile.
Il ne s'agit pas de convaincre l'autre.
Non. Non, non, surtout pas. Parce que quand on est dans cette démarche-là, ça veut dire qu'on se sent supérieur à l'autre. Vous allez dire, c'est quand même très difficile, parce que quand on a des convictions, c'est qu'on y croit. Et donc, si l'autre ne partage pas mes convictions, c'est que j'estime qu'il est dans l'erreur.
Il n'est pas loin de se tromper.
C'est pour ça qu'il me semble que l'enjeu, c'est d'accepter de suspendre pour un temps le temps d'expérimenter cette conviction de l'autre. Est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose ? Cette manière de faire, ces expressions de foi, sa manière de vivre, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose ? Et accepter de l'expérimenter pour un temps, on ne prend pas beaucoup de risques. Mais par contre, le risque qu'on prend, c'est que, évidemment, on ne le fait pas qu'intellectuellement, c'est qu'on engage sa personne.
Ça peut amener loin, finalement.
Eh bien, complètement. Et c'est pour ça que vous avez raison de parler de conversion. C'est de véritables conversions. Mais encore faut-il qu'on se rencontre. Et c'est ça qui est le plus difficile.
C'est-à-dire se rencontrer de manière très concrète ?
Bah oui. Parce que
il faut susciter des temps.
Susciter des rencontres. Parce que tant que vous ne rencontrez pas l'autre, vous ne savez pas qui il est. Je peux vous en parler, mais ça ne remplacera jamais la rencontre.
Quand vous parlez de rencontres, vous parlez des croyants, des communautés paroissiales, par exemple.
Voilà.
Et pas seulement des instances décisionnelles de des églises.
Ça touche tout chrétien et toutes les églises. Alors l'idée, c'est de provoquer ces rencontres. Alors ça existe, ça. À l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle continentale, à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Et de quoi il s'agit ? C'est ce qu'on a appelé le forum, un forum chrétien. Le principe, il est simple. Ceux qui sont habitués à des rencontres œcuméniques entre différentes églises, mettez-vous ensemble. Et puis, votre objectif, c'est d'aller chercher des personnes des églises qui ne viennent jamais à ces rencontres. Peut-être même que vous ne connaissez pas, mais il suffit de regarder sur Internet et vous voyez qu'il y a telle ou telle église. Allez les chercher. Ils ne vont pas vouloir, parce qu'ils vont se dire pourquoi je viendrai là ? Et d'ailleurs, certains sont même contre. La démarche, c'est de nouer une relation de confiance et d'amitié, parce que dans ce lieu, il faut qu'il soit, comme on dit, complètement sécurisé. On ne met pas la personne en danger. Elle est libre. C'est un contexte de bienveillance et de confiance. Alors ce qu'on fait, ça c'est aussi très intéressant, quand ces gens acceptent de venir, avant, on dit, bon, qui manque à la table ? Qui manque ? Est-ce que dans ma région, mon quartier, il n'y a pas une église que j'ai sautée ? Eh bien alors je vais aller la chercher. Et c'est pour ça que ça prend du temps de mettre en place ces rencontres, parce qu'il s'agit d'être vigilant et attentif à celui qui manque. Et quand il manque, il manque. Quand on fait une réunion de famille, vous organisez un grand repas, s'il manque quelqu'un de la famille, il va manquer, la chaise est vide. Hein. Est-ce qu'on raisonne déjà comme ça entre églises? C'est pas gagné, ça. Donc c'est aussi un changement de mentalité. Et la deuxième chose qu'on fait quand les personnes sont là, on les met par petits groupes d'églises différentes et on leur dit, pendant quelques minutes, vous racontez comment vous en êtes venu à croire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous a amené à croire? Et là, on s'aperçoit que quand ça se fait, on devient frère et sœur en Christ parce qu'on s'aperçoit qu'on a tous été saisis par Christ. Qu'on soit un évêque, un cardinal, un métropolite, un simple laïc, le simple est de trop, parce qu'on est tous frères et sœurs. Mmh. Et les barrières institutionnelles tombent,
parce
les
que
barrières
c'est l'expérience
confessionnelles tombent. Et oui, il faut l'expérimenter, bien sûr.
Qui compte, d'abord.
C'est l'expérience de voir comment Dieu agit dans la vie de quelqu'un. Et puis, c'est pas parce que je ne suis pas dans la confession orthodoxe que je ne vais pas regarder mon collègue orthodoxe moins ou plus que moi.
Anne Lordanet, vous avez dit qu'il ne s'agit pas de mettre les gens en danger. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se sent en danger?
Amener quelqu'un à se justifier, par exemple. Justifier son identité, c'est terrible ça. Justifier sa confession, terrible aussi. Non, il s'agit simplement de dire on est là ensemble, mais on est ensemble devant Dieu. Est-ce qu'on peut se reconnaître en étant devant Dieu comme frère et sœur? C'est lui qui nous rend frère et sœur, c'est pas nous qui le déclarons. Mais se reconnaître, c'est déjà énorme. Donc ça suppose un contexte de confiance, de bienveillance, c'est-à-dire, et ça démarre toujours par un temps de louange, par un temps de prière et par un temps de lecture biblique. Celui qui nous rassemble est présent.
Et ça suppose aussi, donc, pour reprendre un slogan célèbre, « Venez comme vous êtes ». Il n'y a pas de condition. Vous pouvez venir, mais à condition que vous laissiez de côté telle ou telle pratique,
non, rien du
telle
tout,
ou
au contraire.
Croyance.
Chacun vient comme il est, et c'est ce qu'il est qui est une joie et une richesse pour les autres. L'objectif du mouvement œcuménique n'a jamais été de devenir semblable. Nous ne sommes pas des clones, et il ne s'agit pas de devenir justement semblable. On rappelle toujours que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et ça, c'est essentiel. J'ai envie de dire, c'est acquis. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on a toujours envie de ramener l'autre dans son giron, c'est normal.
Ou alors l'autre nous dérange un peu, enfin, au sens où il nous bouscule.
Ah, c'est sûr, et ce n'est pas toujours confortable. Donc l'idée, c'est de rendre l'espace, le lieu, le climat confortable, bienveillant, pour que justement ces déplacements puissent être vécus comme quelque chose qui fait du bien. Qui est élargi.
Quand on parle d'œcuménisme, Anne Lordanet, on parle souvent de mouvement, de chemin, parce que c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui n'est pas figé ni statique.
Oui, parce que c'est une histoire de rencontre. D'ailleurs, nos manières de comprendre notre foi, elle n'est pas non plus ultra figée et statique. On est bien obligé de formuler les choses autrement en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, de notre culture et des périodes. Ce qu'on va dire aujourd'hui à nos contemporains, c'est pas ce que les réformateurs disaient au XVIe siècle.
C'est déjà vrai pour nous à titre personnel.
Voilà.
On n'a pas la même foi à 20 ans ou à 40 ou à 60.
Voilà. Donc on grandit et il s'agit aussi de justement grandir ensemble et de faire que ces liens entre nous soient de plus en plus forts pour toujours le même objectif. Être témoin de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous nos contemporains. On a tout intérêt à travailler sur ces grandes questions sociétales aujourd'hui qui sont quand même très difficiles à traiter, à les travailler ensemble, à collaborer ensemble. Quel est le poids d'une église protestante ou de l'église catholique sur la question écologique? Elle est extrêmement faible parce que ça concerne toute l'humanité, ça concerne toute la planète. Le faire ensemble, il y a un passage dans l'Ecclésiaste qui dit « une corde à trois brins est plus solide qu'une corde à deux brins ». Et bien c'est ça l'idée. On aura plus d'impact, on aura plus de force, parce qu'il s'agit aussi de ne pas s'épuiser. Et on peut pas, vous allez dire, on ne peut pas s'engager non plus dans tout. Mais si, on peut quand on est ensemble. Et d'abord parce que tout se tient. Et l'idée, c'est d'arriver à se faire confiance pour justement arriver à cette collaboration.
Encore faut-il tenir à peu près le même langage?
Alors au contraire, moi je crois que plus on a de langages différents, plus on touchera de gens. Parce que nos contemporains, ils n'ont pas le même langage. Donc qu'on ait des langages différents, des expressions de foi différentes, eh bien tant mieux. Ça c'est très bien.
Mais est-ce que ce n'est pas au contraire ce qui a constitué une sorte de contre-témoignage pendant des siècles?
Si, si on la joue en concurrence. Mais si on ne joue pas la concurrence, telle forme de...
Complémentarité de... plutôt que concurrence.
Voilà, exactement. Parce que c'est toujours se replacer devant celui qui nous tient. Je n'ai pas dit ce qui nous tient. Nous avons des doctrines différentes. Bon, très bien. C'est-à-dire, on a des manières aussi de comprendre qui sont différentes. Mais ce n'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est quand on fait... C'est quand on rend ces différences-là complètement séparatrices. Et ça, c'est vraiment un contre-témoignage. Mais par contre, quand on dit, ben, vous voyez, dans telle église, ils vont plus mettre l'accent sur une manière de prier qui est beaucoup plus silencieuse, qui est beaucoup plus...
Contemplative,
ce qui est très peu le cas dans les églises protestantes. Nous, on est plutôt des êtres de parole, on parle beaucoup dans nos cultes. Mais ça fait, de découvrir ce silence... Cette forme de prière, ça fait un bien fou, mais encore faut-il l'expérimenter, de découvrir du côté catholique ou autre, ou orthodoxe, ce que nous faisons plus volontiers, c'est-à-dire des prières spontanées pendant les offices. Ben, ça aussi, peut-être que ça libère, mais encore faut-il l'expérimenter. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'être ensemble, mais c'est aussi important de se visiter les uns les autres, d'aller dans nos différents lieux de culte, de toutes les confessions, et puis simplement de le vivre, pas prendre plus de place que de le vivre avec ceux qui sont là, pour sentir, saisir et l'expérimenter aussi, mais au sens de le vivre pleinement. C'est un office.
Anne-Laure Vanier, je rappelle que vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et vous êtes responsable du service des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Avec vous, dans ces entretiens, nous essayons de comprendre ce que c'est que l'œcuménisme, ce que c'est que le rapprochement entre les églises chrétiennes et de voir comment les différences, qui sont indéniables, peuvent devenir des richesses au lieu d'être des obstacles ou des lieux de tension et de défiance. Alors vous avez invité les auditeurs, vous nous avez tous invités à découvrir ce qui se passe dans les autres églises. Est-ce que on pourrait pas dire, mais c'est une forme de... On papillonne si on fait ça. On fait son miel de ce qui nous arrange et puis après on se fait sa petite tambouille, quoi.
Vous abordez un sujet essentiel qui est la question de l'identité. Moi, j'ai découvert, en faisant toutes ces démarches, ces rencontres, que, au contraire, ça a approfondi ma propre identité, alors je vais la définir comme ça, de protestante réformée. Mais alors, avec ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est un véritable élargissement. C'est-à-dire, je suis très à l'aise dans une divine liturgie orthodoxe comme à la messe catholique. Mais je peux aussi aller dans un culte évangélique, un culte luthérien et le mien. Ou alors un office copte. Voilà. C'est-à-dire que ce qui nous fonde, cette louange à Dieu, c'est l'être même du chrétien. Notre vie, elle est fondée non pas sur des choses à faire, puisque nous vivons de la grâce. Et ça, c'est quand même un acquis entre nous. C'est-à-dire, on se le dit et on se le redit. Et on dit la même chose. Sous des formes différentes, mais on dit la même chose. Cette grâce, c'est-à-dire cet amour inconditionnel de Dieu pour chacun et donc pour moi, comment je le vis? Eh bien, je dis, ça veut dire que je ne suis plus menacée. Je peux vivre ma foi là où moi je me sens le mieux. Et aujourd'hui, je le dis, Oui, j'aime mon Église parce que c'est là où moi je me retrouve le mieux, à la fois dans son langage, dans ses expressions de foi, mais aussi dans ses contenus. Mais c'est pas pour ça que je vais dire « mais ce que dit l'autre ne fonctionne pas ». Au contraire, il y a une espèce de porosité qui s'installe, mais c'est pas du tout et n'importe quoi. Le mouvement œcuménique sur cette question d'identité a avancé par étapes. On a d'abord défini une identité existentielle. Comment je suis saisie par Christ? Et là, c'est en dehors de toute confession, en dehors de toute dénomination, toute église, c'est mon rapport à Dieu. Et c'est là où j'ai essayé d'expliquer dans une émission précédente, ces rencontres où on apprend à se découvrir frère et sœur, on dit aussi de quelle église on est. Parce qu'on n'est pas des extraterrestres, il faut bien l'incarner quelque part.
On est enraciné dans une tradition, oui. Quand même, dans une histoire.
Alors ça, c'est la deuxième identité. La deuxième identité, c'est une identité confessionnelle. C'est-à-dire, oui, je me définis comme protestante. Parce que c'est dans ce protestantisme-là que moi, je m'y retrouve. Que je chemine dans ma foi. Et la troisième identité, c'est une identité ecclésiale. C'est-à-dire, dans une église locale. Je vais être dans l'église réformée. Et localement à tel endroit, engagée à tel endroit. Donc, ça fait le système de l'entonnoir. Et cette identité-là, c'est pas la même qu'une église évangélique, orthodoxe, catholique, anglicane, etc. Parce qu'il y a des différences, comme vous l'avez souligné. Troisième étape, ces identités-là, il s'agit de pas tout niveler. On n'est pas tous pareils, et surtout ne pas devenir tous pareils. Qu'est-ce que j'en fais de cette identité? Eh bien, c'est d'arriver à une identité suffisamment ouverte, donc ouverte aux autres, pour qu'elle devienne partagée. Alors, on n'y est pas encore.
Partagée, c'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire, je peux élargir mon identité sans me renier, en restant dans le cadre de mon Église, mais en prenant des éléments qui ne sont pas de ma tradition.
Vous avez un exemple précis à nous donner?
Il me semble que sur les expressions de foi, on peut largement s'ouvrir, parce que c'est sans doute le plus facile. C'est ce qui déstabilise le plus au début, mais c'est sans doute le plus facile.
Ce dont vous parliez,
les chants,
c'est-à-dire...
par exemple. Ouais. Les chants. Alors, la chance que j'ai eue, c'est de circuler dans le monde, dans des églises réformées, donc les mêmes églises que la mienne. Mais ces églises-là, en Afrique ou à Madagascar, ou même au Nicaragua, elles n'ont pas un grand rapport avec la mienne en France, hein. Alors là aussi, j'ai été déstabilisée. C'est-à-dire, on voit que c'est pas d'abord des expressions de foi qui sont à mettre en avant. Ça, au contraire, il s'agit de s'enrichir les uns les autres. Il s'agit aussi de... En Afrique, on danse beaucoup dans un culte, par exemple. Et ça, c'est formidable. C'est pas dans la tradition française, ça, loin de là, hein. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire derrière? D'abord, c'est culturel pour eux. Mm-hmm. Et puis, la louange avec le corps a aussi sa place. Nous, on gomme ça. Et bien, c'est bien aussi qu'on puisse rentrer dans cette démarche.
Alors, Anne-Laure Danet, si vous sentez confortée, confirmée dans votre foi protestante et dans votre appartenance à l'Église protestante, qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui seraient troublées par un culte différent de celui auquel elle est habituée? Quelqu'un qui serait troublée au point qu'elle se demanderait si elle ne va pas rejoindre cette Église? Est-ce que cette histoire des conversions... D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut parler de conversion entre églises. Un protestant qui deviendrait catholique, un catholique qui deviendrait orthodoxe, enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Ça existe?
Alors, ça existe, on parlerait plutôt de passage d'une église à l'autre, parce qu'on se convertit au Dieu de Jésus-Christ, et pas à une église. Donc, mais du passage d'une église à l'autre, alors oui, ça c'est très fréquent. Mais encore une fois, ça, moi, je veux le relativiser dans le sens où c'est d'abord notre appartenance à Jésus-Christ qui est importante. Et après, se trouver un lieu où on se sent bien. Moi, je me sens bien dans mon église réformée. Très bien, pourquoi est-ce que je changerais? Même en découvrant d'autres églises. Mais quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, parce que c'est pour plein de raisons, mais c'est bien qu'il aille voir ailleurs et qu'il trouve un lieu où il peut vraiment vivre sa foi avec ce qu'il est. Il y a des gens qui ont besoin d'une expression beaucoup plus démonstrative, beaucoup plus visible, d'autres beaucoup plus discrètes. Et bien évidemment, ils ne vont pas trouver la même église, là, hein. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Là, il faut que tout le monde trouve un lieu, et c'est ça qui est essentiel, où il puisse vivre sa foi avec des frères et des sœurs.
Reste la question du baptême.
Alors ça, ça fait partie des différences, effectivement, mais ceci dit, là, il faut aussi le relativiser. Vous savez qu'il y a eu un accord entre les églises luthériennes et réformées et l'église catholique, donc on ne parle plus de baptême œcuménique, mais on parle de baptême, parce qu'il y a eu une reconnaissance entre nos églises sur la question du baptême. Ce qui fait que quand il y a une demande de baptême, elle se fait maintenant plus avec un pasteur et un prêtre. C'est l'un ou l'autre, mais c'est reconnu dans les deux églises. Là où ce n'est pas encore reconnu, mais ça avance, c'est avec les églises évangéliques qui ne pratiquent pas le baptême des enfants et qui pratiquent que le baptême de gens conscients de ce qu'ils font quand ils demandent le baptême. Là, il y a une approche, une compréhension du baptême qui n'est pas la même, mais avec une très grosse ouverture qu'il y a eu récemment. Il y a eu une rencontre et tout un travail, alors depuis plusieurs années, entre l'Église catholique, donc le Vatican au niveau mondial, la Fédération luthérienne mondiale et le Conseil Mennonite mondial. Les Mennonites sont une église évangélique qui ne pratique pas le baptême de bébé. Hein. Et à force de travailler ensemble, ça a mis des années, hein, ils ont dit nous pouvons admettre la possibilité, c'est pas encore signé mais c'est en voie de, admettre la possibilité qu'une personne, par exemple luthérienne ou catholique, qui demande à être membre d'une église mennonite, ne soit pas baptisée par nous, même si elle a été baptisée enfant, mais devienne membre uniquement sur profession de foi. C'est une avancée considérable. Parce que ça veut dire la prise en compte d'une autre compréhension du baptême, et puis du côté catholique et luthérien, comprendre pourquoi eux, ils ne parleraient jamais de rebaptême. Et de demander cette profession de foi, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu une compréhension mutuelle et une voie de rapprochement entre ces églises. Ça, c'est une avancée considérable. Alors après, ça va prendre du temps, parce qu'on est au niveau mondial, le temps que ça arrive dans les églises locales. Et puis quand même, il n'y a pas des passages d'une église à l'autre tous les jours, il ne faut pas exagérer non plus.
Revenons à ce que vous disiez, trouver le lieu où on se sent le mieux. Si moi, catholique, je me dis, ben, aujourd'hui j'ai envie d'aller au culte protestant, parce que je sens que j'ai besoin de ça, mais dimanche prochain j'irai à la messe, c'est comme ça que vous voyez les choses, ou je vais un peu loin?
Non, parce que pour, comment dire ça, pour s'engager dans une église, encore faut-il la connaître, et ça se fait pas en une fois ça. Et c'est vivre un peu avec. Si je me sens pas bien dans mon église, bien sûr que c'est légitime d'aller voir une autre, mais prendre le temps d'être avec, de vivre avec. Parce que la vie d'une église ne se réduit pas à simplement l'office. Et il y a des tas de choses autour. Il y a aussi un cadre, et ces cadres ne sont pas les mêmes. Un cadre à la fois théologique, un cadre ecclésial, une manière de vivre.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas se sentir bien dans son église ?
Ben, parfois, on peut être complètement en désaccord avec ce qui est dit, avec la façon dont c'est vécu, avec une personnalité qui ne convient pas à ses expressions de foi, justement. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement réservé et discret, il ne va peut-être pas être très très à l'aise dans une église qui est très démonstrative pendant son culte. Ça, on peut le comprendre. Donc là, ce n'est pas des considérations ni théologiques ni ecclésiales, c'est tout simplement humaine. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Parce que, encore une fois, l'essentiel, c'est que le corps de Christ, il est un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Mais par contre, il y a des mains, il y a des pieds, il y a des bras, ces différences-là, ce sont nos églises. Et c'est important aussi de manifester qu'on n'est pas tous pareils. Du coup, c'est légitime que chacun aussi se retrouve là où il se sent bien. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus catholique de père en fils ou protestant de père en fils. C'est fini ça, cette transmission-là, elle n'existe plus ou très peu, pour une raison très simple, c'est qu'on est dans une société ultra sécularisée. Ça veut dire que ce témoignage de foi, il se passe autrement. Et du coup, ça veut dire des ouvertures beaucoup plus grandes.
Anne-Laure Danet, vous savez certainement qu'au sein de l'Église catholique, beaucoup de choses sont en train de changer. Le pape François a lancé un synode sur la synodalité dans le sens d'une Église plus ouverte, plus inclusive, plus tournée vers les périphéries. Donc beaucoup de choses changent. Et certaines personnes peuvent considérer qu'il y a beaucoup de choses à faire au sein même de son église et que même si elle ne plaît pas, même s'il y a des choses avec lesquelles on se sent en dissonance, bien, il faut rester justement pour œuvrer au sein de cette église et puis essayer de mener le combat qu'on estime juste dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Je comprends très bien la démarche parce qu'il ne s'agit pas de fuir le bateau quand ça ne va pas. Hein. Ça c'est sûr. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'abord je voudrais saluer la démarche qui a été faite, lancée par le pape François avec ce synode. Je ne sais pas si on mesure l'ouverture énorme qu'il a provoquée rien que par la démarche synodale. Et là, c'est pour ça que je lui dis, là, ce n'est pas le moment de partir. C'est-à-dire, sa démarche synodale, c'était de dire, ça concerne pas simplement le niveau des experts, des évêques, mais vraiment les églises locales, c'est-à-dire chaque croyant. Et chaque croyant catholique pouvait s'engager dans la démarche. L'autre chose que je salue, c'est que dès le début, dans la phase préparatoire, il y a eu un volet sur l'œcuménisme. C'est-à-dire ça a été pris en compte. Et ça aussi, il faut le saluer. Parce que ça veut dire que l'Église catholique ne se reconnaît pas comme Église à elle toute seule. Il y en a d'autres. Et ils ont fait des consultations, mais alors tous azimuts, hein, autant du côté orthodoxe, anglican, protestant, et à tous les échelons. Au niveau mondial, au niveau continental, au niveau national et au niveau local. Ça, c'est quand même extraordinaire comme démarche. Et l'idée, c'est... Oui, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais toutes les églises ont des difficultés. Alors, il y en a des crises qui sont plus fortes que d'autres et qui ébranlent plus que d'autres. Ça, on le sait bien. Et c'est là où, pour moi, l'œcuménisme est très important parce que là, il s'agit d'être solidaire. Quand un membre souffre, c'est tous les autres qui souffrent. Et là, il s'agit d'être ensemble, d'abord d'être présent. Présent, simplement une simple présence en disant on est là et on prie les uns pour les autres. Et moi j'ai voulu aussi répondre présente à toutes les demandes sur ces questions, sur ce sujet synodal. J'ai été très frappée de voir que par exemple beaucoup de groupes ont cherché à savoir comment les protestants vivaient cette synodalité, puisque ça c'est notre fonctionnement depuis le XVIe siècle, depuis le début, et on n'a pas bougé là-dessus. Mais c'était pas obligatoire comme démarche, mais ça a été fait pourtant, hein. Et donc, quand je relativisais cette idée de dire « c'est pas d'abord l'appartenance à une église qui compte, c'est l'appartenance à Jésus-Christ », cette appartenance à Jésus-Christ, il faut l'incarner. On n'est pas chrétien du monde, ça veut rien dire, ça. Pourquoi ? Parce que être chrétien, c'est vivre avec des frères et des sœurs. C'est se nourrir spirituellement avec les autres. Ça ne suffit pas de se nourrir personnellement. Bien sûr, chacun peut lire. Ça vit tout seul. Chacun peut prier tout seul, mais ça ne suffit pas. Il faut les autres.
Il faut se coltiner la réalité aussi.
Oui.
De la communauté.
Et puis, ce serait d'une prétention inouïe de croire qu'on n'a pas besoin des autres. Et au contraire, Dieu nous a donné des frères et des sœurs, c'est-à-dire nous ne les avons pas choisis. Et c'est pour ça que la Bible utilise bien le mot frère et sœur. Comme dans une famille, on ne choisit pas ses frères et sœurs. C'est pareil, là. Et donc, vivre avec, ça fait partie aussi du chemin de foi. Et avec encore une nuance supplémentaire qu'on trouve là dans l'Épître aux Romains, c'est avancer, mais sans distancer celui qui est derrière, qui avance moins vite. Au contraire, il y a des moments où il faut l'attendre. Et puis rattraper celui qui va plus loin en lui disant « Hé, va un petit peu moins vite ». Il faut que c'est tout le monde, c'est ensemble qu'on avance.
Au même rythme.
Mais cet ensemble, il est alors pas forcément au même rythme, mais qu'à des moments, on est des points d'étape quand même, hein. Et cet ensemble-là, il est vraiment au niveau œcuménique. Ce n'est pas chaque église toute seule. Alors, il y en a qui avancent plus vite. Il y en a qui se font critiquer. Nous, on sait très bien que, par exemple, parce que c'était un sujet aussi qui a été abordé dans l'Église catholique, l'Église protestante unie de France a accepté, en 2015, la bénédiction des couples de même sexe, en rappelant que notre Église ne marie pas. C'est une demande de bénédiction. Déjà là, il n'y a pas la même compréhension du mariage. Ce n'est pas un sacrement. Ça veut dire que, évidemment, que ça n'a pas été compris. Et cette bénédiction, elle est quel que soit effectivement le sexe des personnes. C'est notre compréhension du mariage. Ce n'est pas un sacrement et c'est une demande de bénédiction. Et c'est Dieu qui bénit. Évidemment, ça a provoqué une onde de choc, ça on le sait très bien. Mais en même temps, on a pu s'expliquer, on a pu dire aussi ce que ça voulait dire, c'est-à-dire c'est ce qu'on a proposé, en plus extrêmement large, puisque c'est en fonction aussi de la méconscience du pasteur à qui c'est demandé et de son conseil. C'est-à-dire, il faut que les deux soient d'accord. Hein. Donc c'est très large aussi. Ça veut dire que si on a dans notre union d'église des églises locales qui ne sont pas d'accord, elles ont le droit. Et celles qui sont d'accord, elles ont le droit aussi. Et c'est-à-dire que ce n'est pas des démarches qui sont massives. Mais quand je vois, par exemple, l'avancée du côté catholique, la première étape, ça a été de dire, quand le pape a dit, mais toute personne, quelle qu'elle soit, a sa place dans l'église, y compris les homosexuels. Et là, qui propose cette démarche de bénédiction, alors non liturgique, on l'a bien compris, pour, par exemple, les personnes, les couples homosexuels, mais aussi pour les couples divorcés, c'est une ouverture.
Ça n'a pas fait l'unanimité. Hein.
Ah ben ça, je m'en doute bien. Quand c'est arrivé chez nous, ça n'a pas fait l'unanimité non plus. Et vous voyez, ça, c'est une manière aussi de s'entraider. On s'aperçoit que nos églises n'implosent pas. On avance. Et puis, bon, parfois, il faut attendre un peu. On avance encore. Il faut attendre. Et le jeu œcuménique, c'est vraiment une entraide entre nous.
Alors justement, vous disiez quand une église est en difficulté, en souffrance, l'idée c'est pas de s'en réjouir et de se dire ah bah tiens, leur modèle, on savait bien de toute façon que ça finirait comme ça, mais de compatir.
De compatir, alors ça c'est la première chose, compatir. Et c'est un terme qui est essentiel dans la Bible, compatir. La compassion, d'abord le terme qui est utilisé dans la Bible, il est réservé à Dieu ou à Jésus. Étonnant, hein? C'est-à-dire, on pourrait le traduire, il est pris aux entrailles. La compassion, ce n'est pas intellectuel, c'est vraiment dans son être, il y a quelque chose qui s'ébranle parce qu'on est touché. Mais touché de façon à être proche de l'autre.
Mais qu'est-ce qui vous a fait souffrir, vous, par exemple, quand le scandale des abus a explosé au sein de l'Église catholique, quand on a reçu le fruit du travail de la commission Sauvé? Ça vous a touché?
Ah mais bien sûr. D'une part, par rapport aux victimes, parce que comme les autres, nous, on a découvert à la fois le sujet et l'ampleur. Par rapport aussi à tous ceux qui sont en responsabilité, parce qu'on a bien vu aussi un certain désarroi au début, hein, et puis un choc. Et nous, on en a parlé au niveau œcuménique, hein, on en a parlé au niveau des instances nationales, régionales, etc. Bien sûr qu'on en parlait. Et c'est ça qui est aussi une force, c'est-à-dire on était suffisamment en confiance pour en parler. Alors là, je me suis dit quand même, c'est... Et en parler et pouvoir le prier aussi. Et voir s'entraider. Et l'entraide, elle a été dans les deux sens.
C'est-à-dire ?
Parce que la Fédération protestante a sorti un texte justement sur les abus sexuels, spirituels, etc. On a fait travailler nos églises aussi sur cette question-là. On les a rendus plus vigilants. Mais on l'a fait, pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce rapport de la CIAZ. Et puis ça voulait dire qu'on s'est aussi échangé nos documents au niveau œcuménique entre orthodoxes, catholiques, protestants. Et là aussi, on s'est entraidé dans la réflexion, alors à des échelles différentes. Mais ça n'empêche que porter dans la prière, dans nos cultes respectifs, mais aussi ensemble, ça change tout dans les relations.
Compassion, et ça demande une sacrée confiance quand même, d'échanger documents. De ce genre-là, de cet ordre-là.
Les documents, et puis d'en parler,
ouais,
simplement,
d'en parler,
à bâton rompu, hein, autour dans une
réunion. En vérité, quoi.
Voilà. Et ça, évidemment, ça crée des liens aussi très forts, ça c'est sûr, hein, parce que c'est ça aussi, pour moi, cette question d'être ensemble. J'ai parlé précédemment de cette identité ouverte et partagée. Ça veut dire d'abord accepter de s'exposer, dans le meilleur comme dans le pire.
C'est-à-dire s'exposer.
S'exposer.
Se montrer tel qu'on est.
Eh ben oui. Et ça, c'est pas évident du tout.
Ben oui, parce que ça rend vulnérable.
Eh ben c'est ça. Pour moi, la démarche de l'œcuménisme réceptif, c'est ce qu'on appelle aussi, chercher les richesses qui sont chez l'autre et que j'ai pas, mais c'est d'abord et avant tout, à un moment donné dans l'étape, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme des mains blessées. C'est très beau cette expression. Elle vient de la parabole du Samaritain parce que c'est oser exposer ses blessures à l'autre, parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas se soigner soi-même et c'est un autre qui vient nous prendre et qui nous emmène chez l'aubergiste et qui repart après. Il n'y a pas de mainmise, mais il n'y a pas d'indifférence. Et ça, c'est essentiel. Et la compassion, elle est de cet ordre-là. C'est parce que j'ai été touchée. Et ça, on est touché que quand on est proche de l'autre, que quand on peut parler avec l'autre. Et si on se risque à s'exposer justement à l'autre dans ses forces, mais aussi dans ses blessures, ben moi, je n'ai jamais vu quand l'autre en profitait. J'ai vu qu'on allait dans cette démarche de prière. Je suis aussi vulnérable que l'autre.
C'est une prise de risque, mais sans cette prise de risque...
Que l'évangile transforme, c'est ça que ça veut dire.
Ouais.
L'évangile transforme cette prise de risque en quelque chose qui devient fécond et qui est un surplus de vie.
Anne-Laure Danet, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et responsable du service des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Et vous nous aidez à comprendre comment les différences indéniables qu'il y a dans les différentes églises chrétiennes peuvent constituer des richesses, à partir du moment où les relations, comme vous le disiez précédemment, de confiance, de compassion sont établies, sont respectées. Et manifestement, c'est quand même... beaucoup le cas depuis un certain nombre de décennies. Pour vous, la vocation des chrétiens, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça aussi, cette vocation, donc, qui veut dire l'appel, on le reçoit, on ne l'invente pas. Et cet appel, c'est d'annoncer l'Évangile à nos contemporains.
Ouais, au monde.
À nos contemporains, au monde. Mais annoncer l'Évangile, ce n'est pas à des masses. D'ailleurs, quand Jésus nous parle, il nous parle individuellement. C'est-à-dire, je disais toujours, quand on parle de conversion, c'est qu'on a été saisi par Christ, mais c'est mon histoire personnelle. Et ce n'est pas l'histoire d'une masse entière. C'est chacun qui doit répondre à cet appel. Et voilà pourquoi annoncer l'Évangile, être ses témoins de ce que j'ai reçu de Dieu, c'est ça en fait. Hein. La mission, ce n'est pas autre chose que ça. Ben, ça veut dire qu'il faut que j'aille rencontrer les gens, il faut que j'aille vers les gens. Et là, c'est une interpellation pour toutes nos églises. Parce que ça veut dire sortir de nos temples, sortir de nos églises, pour aller vers ceux qui sont dehors. Et ce travail-là, il me semble qu'aujourd'hui, c'est primordial que nous fassions ensemble.
Pourquoi ?
Parce qu'on est, encore une fois, dans une société ultra sécularisée. Avec un supermarché du religieux où chacun le prend à sa carte. On prend ici, on prend là, il y a un vrai mélange. Et nous n'annonçons pas une doctrine. On annonce, c'est pas des éléments à croire qu'on donne.
Des techniques.
Ou des techniques. C'est faire rencontrer quelqu'un qui pour nous est une véritable présence dans notre vie et quelqu'un qui est aimant, qui a une présence agissante, bienveillante et aimante. Ça change tout ça. Alors, ce quelqu'un-là, je peux en parler, mais tant que la personne ne l'a pas rencontré, elle ne pourra rien en dire. Et pour nous, notre rôle, c'est que nous soyons ces témoins au sens de partager ce que nous avons reçu. Et là, j'allais dire, il y a plein de manières de faire. Je vous donne un exemple. On a réussi à travailler ensemble sur la question écologique, mais sous l'angle... Alors, du côté protestant, on va parler de la justice climatique, économique et sociale. Du côté catholique, on parle d'écologie intégrale. Mais on dit exactement la même chose. Les orthodoxes, eux, c'est un leitmotiv chez eux parce que c'est partie intégrante de leur liturgie. Et l'idée, c'est à la fois de comprendre que... Et là, on s'est entraidé dans nos approches théologiques pour faire comprendre que déjà, l'homme n'est pas au-dessus. Il est partie intégrante. Et deuxièmement, on est interdépendant. Donc ce que nous faisons a une incidence pour les autres et réciproquement. On a réussi à le faire ensemble. Et du coup, quand on le fait ensemble, ça veut dire qu'on va toucher des personnes qu'on n'aurait jamais touché par nos propres églises, parce que par nos réseaux, par ceci, par cela. Et cette question écologique, elle concerne tout le monde. Elle intéresse les contemporains, et en particulier les jeunes. Et il y a eu un exemple où il y a eu un petit terrain qui a été acheté par une communauté, mais ça s'est fait avec plusieurs églises. Ils ont commencé à cultiver, à travailler ensemble, juste pour témoigner, à une toute petite échelle. C'est des gens du quartier qui sont venus. C'est devenu une démarche interreligieuse, et même au-delà de ça, puisqu'il y a des gens qui n'appartiennent à aucune religion. Et ça, c'est très important, parce que c'est une manière de dire, c'est pas simplement des mots, c'est aussi une manière de vivre, c'est une manière d'être. Et ça, ça se voit bien plus que nos mots.
On voit bien qu'il y a un intérêt croissant pour tout ce qui relève de la spiritualité dans notre société, malgré ou peut-être à cause de la sécularisation dont vous parliez. Qu'est-ce qui fait que l'évangile, que le message dont les chrétiens sont porteurs, peut répondre à ce besoin de spiritualité, ce besoin d'intériorité de nos contemporains?
Parce qu'on est dans un vide aussi de sens. On est dans une société qui est beaucoup sur l'immédiateté, qui est beaucoup sur des réseaux, mais qui ne sont pas des relations aussi qui durent et qui sont beaucoup de relations virtuelles. Alors, ce n'est pas dire que ça n'existe pas.
Et éphémère?
Éphémère aussi, pas toujours. J'ai été très intéressée par le livre de Jérôme Fourquet qui s'appelle « L'archipel français », où il montre finalement que d'abord la matrice judéo-chrétienne, elle a complètement implosé, on n'est plus dans cette société-là, ça veut dire que les repères pour les gens ne sont pas là. Donc là aussi, dans notre témoignage, c'est très important, pas faire comme s'ils avaient une culture chrétienne, c'est pas vrai. Et la deuxième chose, c'est qu'ils marchent par îlot d'affinité. Mais ça, c'est pas génial pour une ouverture. Ça veut dire qu'on va chercher le semblable. Et au bout d'un moment, on est en perte de sens quand on fait ça. Parce que ce qui nous constitue aussi, et ce qui va nous élargir, c'est l'altérité, c'est l'autre différent. Donc si on va toujours chercher le même, évidemment, on n'avance pas très vite. Et là où les églises ont un rôle à jouer, d'abord, c'est dans notre diversité. Elle est essentielle. Et voilà, là, c'est une richesse, cette diversité. Parce qu'on peut répondre justement aux contemporains par différentes approches. Justement à cause de cette diversité. Et la deuxième chose, c'est que nous avons aussi quelque chose à dire sur cette recherche de sens. La foi en Jésus-Christ, c'est donner un sens à sa vie. C'est, je vais le dire d'une autre façon, c'est comprendre qu'on peut être décentré de soi-même dans une société où on est totalement auto-centré, décentré de soi-même, parce qu'on n'a plus rien à prouver. On n'a pas besoin de justifier son existence. On n'est plus en quête de reconnaissance pour se faire un nom. On est libre. Et cette liberté-là, elle nous permet de nous engager dans des tas de choses. C'est ça qui est formidable.
Bonjour ces entretiens, Anne-Laure Danet. On a commencé avec le mot œcuménisme. J'aimerais qu'on boucle la boucle. Vous pensez que le mouvement œcuménique, il est arrivé à maturité, que c'est pour ça qu'on en parle moins? Ou bien que le débat ou les interrogations se sont déplacées vers les questions interreligieuses et islamo-chrétiennes?
Alors je crois que c'est vraiment les deux en même temps, c'est-à-dire le dialogue interreligieux ne se fait pas au détriment du mouvement œcuménique, parce que c'est pas la même chose. Par contre, ce mouvement œcuménique ne cesse de s'élargir. Il reste œcuménique, c'est-à-dire c'est un dialogue entre les églises chrétiennes, mais il y a aussi, évidemment, un dialogue qui se fait avec les autres religions, et il est essentiel, essentiel. Et pas seulement l'islam, hein. Aussi avec le bouddhisme, aussi avec le judaïsme, qui n'est pas placé du coup de la même manière, mais c'est très important, ça. Et là aussi, pour mieux se comprendre, pour trouver aussi comment on peut à la fois collaborer ensemble, mais pour collaborer ensemble, il faut apprendre à se connaître.
Et là encore.
Là encore. Et apprendre à se connaître, se soutenir. Se soutenir, c'est-à-dire, on voit bien que dans la société française, la place des religions dans notre laïcité à la française n'est pas si évidente que ça. Et là, il s'agit aussi de se soutenir, non pas de faire un front des religions, ce serait ridicule, mais par contre de nous entraider. Entendre ce qui se passe en Israël et à Gaza, il faut entendre la souffrance des deux côtés. Il ne s'agit pas de rapatrier le sujet en France, ce serait ridicule, mais d'entendre ce que vivent les communautés juives en France, mais aussi les communautés musulmanes. Et là, il s'agit aussi d'être cette présence bienveillante. Et ce n'est pas une histoire de bisounours, là, hein, pas du tout. C'est très exigeant, parce qu'il s'agit à la fois d'être dans cette... dans ce rôle de témoin qui... moi je dis toujours la même chose, à savoir cette présence, mais où on apprend à connaître l'autre. Et être ensemble aussi, c'est pas évident, hein. Quand il y a des tensions comme ça, c'est pas du tout évident. Et pour les communautés, c'est des lieux de souffrance, ça il faut le savoir, hein. Donc c'est important aussi, on revient sur un terme qu'on a déjà utilisé, d'être dans cette démarche aussi de compassion, mais une compassion active.
Est-ce que ça suppose là encore un risque ?
Dès qu'on bouge, de toute façon, on est critiqué, mais ça, c'est pas le problème, et ça doit même pas être le sujet. C'est d'être cette présence sans rapatrier, encore une fois, la problématique en France, c'est pas la même chose, mais par contre, oui, les communautés juives souffrent aujourd'hui. Il y a elles le disent d'ailleurs, hein, beaucoup de gens vivent dans la peur, c'est quand même pas normal ça. Hein. Et puis, y compris les communautés musulmanes, il faut aussi les entendre. Et se mettre ensemble pour pouvoir dénoncer dès qu'il y a une forme d'injustice, d'oppression, etc., etc. Le dénoncer. Et là encore, plus on est ensemble, plus on est fort. Mais là où je me réjouis, c'est qu'en France, ça se fait très largement, ça. Il y a une très belle entente entre les responsables des cultes en France, et ils œuvrent ensemble pour justement à la fois se soutenir, mais aussi dénoncer toutes ces formes d'injustice.
Un très grand merci, Anne-Laure Danet, de nous avoir accompagnés dans ces entretiens.
Merci beaucoup à vous.